Chapitre 22. Deux jours après, ceux des convives de Du Tillet, qui déchiraient Madame Marneffe à belles dents, se trouvaient attablés chez elle, une heure après qu'elle venait de faire peau neuve, en changeant son nom pour le glorieux nom d'un maire de Paris. Cette trahison de la langue est une des légèretés les plus ordinaires de la vie parisienne. Valérie avait eu le plaisir de voir à l'église le baron brésilien que Crevel, devenu mari complet, invita par forfanterie. La présence de Montès au déjeuner n'étonna personne. Tous ces gens d'esprit étaient depuis longtemps familiarisés avec les lâchetés de la passion, avec les transactions du plaisir. La profonde mélancolie de Steinbock, qui commençait à mépriser celle dont il avait fait un ange, parut être d'excellent goût. Le Polonais semblait dire ainsi que tout était fini entre Valérie et lui. Lisbeth vint embrasser sa chère Madame Crevel en s'excusant de ne pas assister au déjeuner sur le douloureux état de santé d'Adeline. « Sois tranquille, » dit-elle à Valérie en la quittant. « Ils te recevront chez eux et tu les recevras chez toi. Pour avoir seulement entendu ces quatre mots, 200 000 francs, la baronne est à la mort. Oh, tu les tiendras tous par cette histoire, mais tu me la diras. » Un mois après son mariage, Valérie en était à sa 10e querelle avec Steinbock, qui voulait d'elle des explications sur Henri Montès, qui lui rappelait ses phrases pendant la scène du paradis, et qui, non content de flétrir Valérie par des termes de mépris, la surveillait tellement qu'elle ne trouvait plus un instant de liberté, tant elle était pressée entre la jalousie de Venceslas et l'empressement de Crevel. N'ayant plus auprès d'elle Lisbeth, qui la conseillait admirablement bien, elle s'emporta jusqu'à reprocher durement à Venceslas l'argent qu'elle lui prêtait. La fierté de Steinbock se réveilla si bien qu'il ne revint plus à l'hôtel Crevel. Valérie avait atteint son but, elle voulait éloigner Venceslas pendant quelque temps pour recouvrer sa liberté. Valérie attendit un voyage à la campagne que Crevel devait faire chez le comte Popineau afin d'y négocier la présentation de Madame Crevel, et put ainsi donner un rendez-vous au baron, qu'elle désirait avoir toute une journée à elle, pour lui donner des raisons qui devaient redoubler l'amour du Brésilien. Le matin de ce jour-là, Reine, jugeant de son crime par la grosseur de la somme reçue, essaya d'avertir sa maîtresse, à qui, naturellement, elle s'intéressait plus qu'à des inconnus. Mais comme on l'avait menacée de la rendre folle et de l'enfermer à la salpêtrière, en cas d'indiscrétion, elle fut timide. « Madame est si heureuse maintenant, » dit-elle. « Pourquoi s'embarrasserait-elle encore de ce Brésilien? Je m'en défie, moi. » « C'est vrai, reine, » répondit-elle. « Aussi vais-je le congédier. »« Ah, madame, j'en suis bien aise. Il m'effraie, ce Moricaud. Je le crois capable de tout. »« Et tu sottes. C'est pour lui qu'il faut craindre quand il est avec moi. » En ce moment, Lisbeth entra. « Ma chère gentille chevrette, il y a longtemps que nous ne nous sommes vus, » dit Valérie. « Je suis bien malheureuse. Crevel m'assomme. » Et je n'ai plus de Venceslas, nous sommes brouillés. » « Je le sais, » reprit Lisbeth, « et c'est à cause de lui que je viens. Victorin l'a rencontré sur les 5 heures du soir, au moment où il entrait dans un restaurant à 25 sous, rue de Valois. Il l'a pris à jeun par les sentiments et l'a ramené rue Louis-le-Grand. Hortense, en revoyant Venceslas, maigre, souffrant, mal vêtu, lui a tendu la main. Voilà comme tu me trahis. » « Monsieur Henri, madame, » vint dire le valet de chambre à l'oreille de Valérie. « Laisse-moi, Lisbeth, je t'expliquerai tout cela demain. » Mais, comme on va le voir, Valérie ne devait bientôt plus pouvoir rien expliquer à personne. Vers la fin du mois de mai, la pension du baron Hulot fut entièrement engagée par les paiements que Victorin avait successivement faits au baron de Nucingen. Chacun sait que les semestres des pensions ne sont acquittés que sur la présentation d'un certificat de vie, et comme on ignorait la demeure du baron Hulot, les semestres frappés d'opposition au profit de Vauvinet restaient accumulés au trésor. Vauvinet ayant signé sa main levée, désormais il était indispensable de trouver le titulaire pour toucher l'arriéré. La baronne avait, grâce aux soins du docteur Bianchon, recouvré la santé. La bonne Josepha contribua par une lettre, dont l'orthographe trahissait la collaboration du duc d'Hérouville, à l'entier établissement d'Adeline. Voici ce que la cantatrice écrivit à la baronne après 40 jours de recherches actives. « Madame la baronne, Monsieur Hulot vivait, il y a 2 mois, rue des Bernardins, avec Élodie Chardin, la repriseuse de dentelle qu'il avait enlevée à Mademoiselle Bijoux. Mais il est parti, laissant là tout ce qu'il possédait, sans dire un mot, sans qu'on puisse savoir où il est allé. Je ne me suis pas découragée, et j'ai mis à sa poursuite un homme qui déjà croit l'avoir rencontré sur le boulevard Bourdon. La pauvre juive tiendra la promesse faite à la chrétienne. Que l'ange prie pour le démon. C'est ce qui doit arriver quelquefois dans le ciel. Je suis avec un profond respect et pour toujours, votre humble servante. Josepha Mira. » Maître Hulot d'Hervy, n'entendant plus parler de la terrible Madame Nourrisson, voyant son beau-père marié, ayant reconquis son beau-frère, revenu sous le toit de sa famille, n'éprouvant aucune contrariété de sa nouvelle belle-mère, et trouvant sa mère mieux de jour en jour, se laissait aller à ses travaux politiques et judiciaires, emportés par le courant rapide de la vie parisienne, où les heures comptent pour des journées. Chargé d'un rapport à la Chambre des députés, il fut obligé, vers la fin de la session, de passer toute une nuit à travailler. Rentré dans son cabinet vers 9 heures, il attendait que son valet de chambre apportât ses flambeaux garnis d'abat-jour. Et il pensait à son père. Il se reprochait de laisser la cantatrice occupée de cette recherche, et il se proposait de voir à ce sujet le lendemain M. Chapuzot. Lorsqu'il aperçut à la fenêtre, dans la lueur du crépuscule, une sublime tête de vieillard, à crâne jaune, bordée de cheveux blancs. « Dites, mon cher monsieur, qu'on laisse arriver jusqu'à vous un pauvre ermite venu du désert et chargé de quêter pour la reconstruction d'un saint asile. » Cette vision qui prenait une voix et qui rappela soudain à l'avocat une prophétie de l'horrible nourrisson le fit tressaillir. « Introduisez ce vieillard, » dit-il à son valet de chambre. « Il empestera le cabinet de monsieur, » répondit le domestique. « Il porte une robe brune qu'il n'a pas renouvelée depuis son départ de Syrie, et il n'a pas de chemise. « Introduisez ce vieillard, » répéta l'avocat. Le vieillard entra. Victorin examina d'un œil défiant ce soi-disant ermite en pèlerinage et vit un superbe modèle de ces moines napolitains dont les robes sont sœurs des guenilles du Lazzarone, dont les sandales sont des haillons du cuir, comme le moine est lui-même un haillon humain. C'était une vérité si complète que, tout en gardant sa défiance, l'avocat se gourmanda d'avoir cru au sortilège de Madame Nourrisson. « Que me demandez-vous ? Ce que vous croyez devoir me donner ?» Victorin prit 100 sous à une pile d'écus et tendit la pièce à l'étranger. « À compte de 50 000 francs, c'est peu !» dit le mendiant du désert. Cette phrase dissipa toutes les incertitudes de Victorin. « Et le ciel a-t-il tenu ses promesses ? » dit l'avocat en fronçant le sourcil. « Le doute est une offense, mon fils, » répliqua le solitaire. « Si vous voulez ne payer qu'après les pompes funèbres accomplies, vous êtes dans votre droit, je reviendrai dans 8 jours. »« Les pompes funèbres ? » s'écria l'avocat en se levant. « On a marché, » dit le vieillard en se retirant, « et les morts vont vite à Paris. » Quand Hulot, qui baissa la tête, voulut répondre, l'agile vieillard avait disparu. « Je n'y comprends pas un mot, » se dit Hulot fils à lui-même. « Mais dans 8 jours, je lui redemanderai mon père, si nous ne l'avons pas trouvé. Où Madame Nourrisson, oui, elle se nomme ainsi, prend-elle de pareils acteurs ?» Le lendemain, le docteur Bianchon permit à la baronne de descendre au jardin, après avoir examiné Lisbeth qui, depuis 1 mois, était obligée par une légère maladie des bronches de garder la chambre. Le savant docteur, qui n'osa dire toute sa pensée sur Lisbeth avant d'avoir observé des symptômes décisifs, accompagna la baronne au jardin pour étudier, après 2 mois de réclusion, l'effet du plein air sur le tressaillement nerveux dont il s'occupait. La guérison de cette névrose affriolait le génie de Bianchon. En voyant ce grand et célèbre médecin assis et leur accordant quelques instants, la baronne et ses enfants eurent une conversation de politesse avec lui. Vous avez une vie bien occupée, et bien tristement, dit la baronne. Je sais ce que c'est que d'employer ses journées à voir des misères ou des douleurs physiques.
Madame, répondit le médecin, je n'ignore pas les spectacles que la charité vous oblige à contempler, mais vous vous y ferez à la longue, comme nous nous y faisons tous, c'est la loi sociale. Le confesseur, le magistrat, l'avoué, serait impossible si l'esprit de l'État ne domptait pas le cœur de l'homme. Vivrait-on sans l'accomplissement de ce phénomène? Le militaire, en temps de guerre, n'est-il pas également réservé à des spectacles encore plus cruels que ne le sont les nôtres? Et tous les militaires qui ont vu le feu sont bons.
Nous, nous avons le plaisir d'une cure qui réussit, comme vous avez, vous, la jouissance de sauver une famille des horreurs de la faim, de la dépravation, de la misère, en la rendant au travail, à la vie sociale. Mais comment se console le magistrat, le commissaire de police et l'avoué qui passent leur vie à fouiller les plus scélérates combinaisons de l'intérêt, ce monstre social qui connaît le regret de ne pas avoir réussi, mais que le repentir ne visitera jamais? La moitié de la société passe sa vie à observer l'autre. J'ai pour ami depuis bien longtemps un avoué, maintenant retiré, qui me disait que depuis 15 ans, les notaires, les avoués, se défient autant de leurs clients que des adversaires de leurs clients. Monsieur, votre fils est avocat. N'a-t-il jamais été compromis par celui dont il entreprenait la défense?
Oh, souvent, dit en souriant Victorin.
D'où vient ce mal profond? Demanda la baronne.
Du manque de religion, répondit le médecin, et de l'envahissement de la finance, qui n'est autre chose que l'égoïsme solidifié. L'argent, autrefois, n'était pas tout. On admettait des supériorités qui le primaient. Il y avait la noblesse, le talent, les services rendus à l'État. Mais aujourd'hui, la loi fait de l'argent un étalon général. Elle l'a pris pour base de la capacité politique. Certains magistrats ne sont pas éligibles. Jean-Jacques Rousseau ne serait pas éligible. Les héritages perpétuellement divisés obligent chacun à penser à soi dès l'âge de 20 ans. Eh bien, entre la nécessité de faire fortune et la dépravation des combinaisons, il n'y a pas d'obstacle, car le sentiment religieux manque en France, malgré les louables efforts de ceux qui tentent une restauration catholique. Voilà ce que se disent tous ceux qui contemplent, comme moi, la société dans ses entrailles.
« Vous avez peu de plaisir, » dit Hortense.
« Le vrai médecin, » répondit Bianchon, « se passionne pour la science. Il se soutient par ce sentiment autant que par la certitude de son utilité sociale. Tenez, en ce moment, vous me voyez dans une espèce de joie scientifique, et bien des gens superficiels me prendraient pour un homme sans cœur. Je vais annoncer demain à l'Académie de médecine une trouvaille. J'observe en ce moment une maladie perdue, une maladie mortelle d'ailleurs, et contre laquelle nous sommes sans armes, dans les climats tempérés, car elle est guérissable aux Indes. Une maladie qui régnait au Moyen-Âge. C'est une belle lutte que celle du médecin contre un pareil sujet. Depuis 10 jours, je pense à toute heure à mes malades, car ils sont deux, la femme et le mari. Ne vous sont-ils pas alliés? Car, madame, vous êtes la fille de Monsieur Crevel, dit-il en s'adressant à Célestine.
Quoi? Votre malade serait mon père? Dit Célestine. Demeure-t-il rue Barbet de Jouy?
C'est bien cela, répondit Bianchon.
Et la maladie est mortelle? Répéta Victorin, épouvanté. Je vais chez mon père, s'écria Célestine en se levant.
Je vous le défends bien positivement, madame, répondit tranquillement Bianchon. Cette maladie est contagieuse.
Vous y allez bien, monsieur, répliqua la jeune femme. Croyez-vous que les devoirs de la fille ne soient pas supérieurs à ceux du médecin?
Madame, un médecin sait comment se préserver de la contagion, et l'irréflexion de votre dévouement me prouve que vous ne pourriez pas avoir ma prudence.
Célestine se leva, retourna chez elle, où elle s'habilla pour sortir.
Monsieur, dit Victorin à Bianchon, espérez-vous sauver monsieur et madame Crevel?
Je l'espère sans le croire, répondit Bianchon. Le fait est inexplicable pour moi. Cette maladie est une maladie propre aux nègres et aux peuplades américaines, dont le système cutané diffère de celui des races blanches. Or, je ne peux établir aucune communication entre les noirs, les cuivrés, les métis et monsieur ou madame Crevel. C'est d'ailleurs une maladie fort belle pour nous. Elle est affreuse pour tout le monde. La pauvre créature, qui, dit-on, était jolie, est bien punie par où elle a péché, car elle est aujourd'hui d'une ignoble laideur, si toutefois elle est quelque chose. Ses dents et ses cheveux tombent, elle a l'aspect des lépreux. Elle se fait horreur à elle-même. Ses mains, épouvantables à voir, sont enflées et couvertes de pustules verdâtres. Les ongles déchaussés restent dans les plaies qu'elle gratte. Enfin, toutes les extrémités se détruisent dans la sanie qui les ronge. « Mais la cause de ces désordres ?» demanda l'avocat. « Oh ! » dit Bianchon, « la cause est dans une altération rapide du sang. Il se décompose avec une effrayante rapidité. J'espère attaquer le sang. Je l'ai fait analyser. Je rentre prendre chez moi le résultat du travail de mon ami le professeur Duval, le fameux chimiste, pour entreprendre un de ces coups désespérés que nous jouons quelquefois contre la mort. « Le doigt de Dieu est là !» dit la baronne d'une voix profondément émue. « Quoique cette femme m'ait causé des maux qui m'ont fait appeler, dans des moments de folie, la justice divine sur sa tête, je souhaite, mon Dieu, que vous réussissiez, monsieur le docteur. » Hulot fils avait le vertige. Il regardait sa mère, sa sœur et le docteur alternativement, en tremblant qu'on ne devinât ses pensées. Il se considérait comme un assassin. Hortense, elle, trouvait Dieu très juste. Célestine reparut pour prier son mari de l'accompagner. « Si vous y allez, madame, et vous, monsieur, restez à un pied de distance du lit des malades. Voilà toute la précaution. Ni vous ni votre femme ne vous avisez d'embrasser le moribond. Aussi devez-vous accompagner votre femme, monsieur Hulot, pour l'empêcher de transgresser cette ordonnance. » Adeline et Hortense, restées seules, allèrent tenir compagnie à Lisbeth. La haine d'Hortense contre Valérie était si violente qu'elle ne put en contenir l'explosion. « Cousine, ma mère et moi nous sommes vengées !» s'écria-t-elle. « Cette venimeuse créature se sera mordue. Elle est en décomposition. »« Hortense, » dit la baronne, « tu n'es pas chrétienne en ce moment. Tu devrais prier Dieu de daigner inspirer le repentir à cette malheureuse. »« Que dites-vous ? » s'écria la bête en se levant de sa chaise. « Parlez-vous de Valérie ?»«
Oui, » répondit Adeline, « elle est condamnée. Elle va mourir d'une horrible maladie, dont la description seule donne le frisson. »
Les dents de la cousine bête claquèrent. Elle fut prise d'une sueur froide. Elle eut une secousse terrible qui révéla la profondeur de son amitié passionnée pour Valérie.
« J'y vais, » dit-elle. « Mais le docteur t'a défendu de sortir. »« N'importe, j'y vais. Ce pauvre Crevel, dans quel état il doit être, car il aime sa femme. »«
Il meurt aussi, » répliqua la comtesse Steinbock. « Ah, tous nos ennemis sont entre les mains du diable. »«
De Dieu, ma fille !»
Lisbeth s'habilla, prit son fameux cachemire jaune, sa capote de velours noir, mit ses brodequins, et, rebelle aux remontrances d'Adeline et d'Hortense, elle partit comme poussée par une force despotique. Arrivée rue Barbet quelques instants après monsieur et madame Hulot, Lisbeth trouva 7 médecins que Bianchon avait mandés pour observer ce cas unique et auquel il venait de se joindre. Ces docteurs, debout dans le salon, discutaient sur la maladie. Tantôt l'un, tantôt l'autre, allaient soit dans la chambre de Valérie, soit dans celle de Crevel, pour observer, et revenaient avec un argument basé sur cette rapide observation. Deux graves opinions partageaient ces princes de la science. L'un, seul de son opinion, tenait pour un empoisonnement et parlait de vengeance particulière en niant qu'on eût trouvé la maladie décrite au Moyen Âge. Trois autres voulaient voir une décomposition de la lymphe et des humeurs. Le second parti, celui de Bianchon, soutenait que cette maladie était causée par une viciation du sang que corrompait un principe morbifique inconnu. Bianchon apportait le résultat de l'analyse du sang faite par le professeur Duval. Les moyens curatifs, quoique désespérés et tout à fait empiriques, dépendaient de la solution de ce problème médical. Lisbeth resta pétrifiée à trois pas du lit où mourrait Valérie, en voyant un vicaire de Saint Thomas d'Aquin au chevet de son ami et une sœur de charité la soignant. La religion trouvait une âme à sauver dans un amas de pourriture qui, des cinq sens de la créature, n'avait gardé que la vue. La sœur de charité, qui seule avait accepté la tâche de garder Valérie, se tenait à distance. Ainsi, l'Église catholique, ce corps divin, toujours animé par l'inspiration du sacrifice en toutes choses, assistait sous sa double forme d'esprit et de chair cette infâme et infecte moribonde en lui prodiguant sa mansuétude infinie et ses inépuisables trésors de miséricorde. Les domestiques épouvantés refusaient d'entrer dans la chambre de monsieur ou de madame. Ils ne songeaient qu'à eux et trouvaient leur maître justement frappé. L'infection était si grande que malgré les fenêtres ouvertes et les plus puissants parfums, personne ne pouvait rester longtemps dans la chambre de Valérie. La religieuse seule y veillait. Comment une femme d'un esprit aussi supérieur que Valérie ne se serait-elle pas demandé quel intérêt faisait rester là ces deux représentants de l'Église? Aussi la mourante avait-elle écouté la voix du prêtre. Le repentir avait entamé cette âme perverse en proportion des ravages que la dévorante maladie faisait à la beauté. La délicate Valérie avait offert à la maladie beaucoup moins de résistance que Crevel, et elle devait mourir la première, ayant été d'ailleurs la première attaquée. « Si je n'avais pas été malade, je serais venue te soigner, » dit enfin Lisbeth, après avoir échangé un regard avec les yeux abattus de son amie. « Voici 15 ou 20 jours que je garde la chambre, mais en apprenant ta situation par le docteur, je suis accourue. « Pauvre Lisbeth, tu m'aimes encore, toi, je le vois, » dit Valérie. « Écoute, je n'ai plus qu'un jour ou deux à penser, car je ne puis pas dire vivre. Tu le vois, je n'ai plus de corps, je suis un tas de boue. On ne me permet pas de me regarder dans un miroir. Je n'ai que ce que je mérite. Ah, je voudrais, pour être reçue à merci, réparer tout le mal que j'ai fait. Oh, dit Lisbeth, si tu parles ainsi, tu es bien morte. N'empêchez pas cette femme de se repentir. Laissez-la dans ses pensées chrétiennes, dit le prêtre. Plus rien, se dit Lisbeth épouvantée. Je ne reconnais ni ses yeux, ni sa bouche. Il ne reste pas un seul trait d'elle, et l'esprit a déménagé. Oh, c'est effrayant. Tu ne sais pas, reprit Valérie, ce que c'est que la mort, ce que c'est que de penser forcément au lendemain de son dernier jour, à ce que l'on doit trouver dans le cercueil. Des vers pour le corps, mais quoi pour l'âme? Ah, Lisbeth, je sens qu'il y a une autre vie, et je suis toute à une terreur qui m'empêche de sentir les douleurs de ma chair décomposée. Moi qui disais en riant à Crevel, en me moquant d'une sainte, que la vengeance de Dieu prenait toutes les formes du malheur, eh bien, j'étais prophète. Ne joue pas avec les choses sacrées, Lisbeth. Si tu m'aimes, imite-moi, repens-toi. Moi, dit la Lorraine, j'ai vu la vengeance partout dans la nature. Les insectes périssent pour satisfaire le besoin de se venger quand on les attaque. Et ces messieurs, dit-elle en montrant le prêtre, ne nous disent-ils pas que Dieu se venge et que sa vengeance dure l'éternité? Le prêtre jeta sur Lisbeth un regard plein de douceur et lui dit « Vous êtes athée, madame. » « Mais vois donc où j'en suis !» lui dit Valérie. « Et d'où te vient cette gangrène ?» demanda la vieille fille qui resta dans son incrédulité villageoise. « Oh, j'ai reçu de Henri un billet qui ne me laisse aucun doute sur mon sort. Il m'a tuée. Mourir, au moment où je voulais vivre honnêtement, et mourir un objet d'horreur. Lisbeth, abandonne toute idée de vengeance. Sois bonne pour cette famille, à qui j'ai déjà, par un testament, donné tout ce dont la loi me permet de disposer. Va, ma fille, quoique tu sois le seul être aujourd'hui qui ne s'éloigne pas de moi avec horreur. Je t'en supplie, va-t'en, laisse-moi. Je n'ai plus que le temps de me livrer à Dieu. Elle bat la campagne, se dit Lisbeth sur le seuil de la chambre. Le sentiment le plus violent que l'on connaisse, l'amitié d'une femme pour une femme, n'eut pas l'héroïque constance de l'Église. Lisbeth, suffoquée par les miasmes délétères, quitta la chambre. Elle vit les médecins continuant à discuter, mais l'opinion de Bianchon l'emportait, et l'on ne débattait plus que la manière d'entreprendre l'expérience.
Ce sera toujours une magnifique autopsie, disait un des opposants, et nous aurons deux sujets pour pouvoir établir des comparaisons.
Lisbeth accompagna Bianchon, qui vint au lit de la malade, sans avoir l'air de s'apercevoir de la fétidité qui s'en exhalait.
« Madame, dit-il, nous allons essayer sur vous une médication puissante et qui peut vous sauver. »
« Si vous me sauvez, dit-elle, serai-je belle comme auparavant ?»«
Peut-être, dit le savant médecin.
« Votre peut-être est connu, dit Valérie. Je serai comme ces femmes tombées dans le feu. Laissez-moi tout à l'église. Je ne puis maintenant plaire qu'à Dieu. Je vais tâcher de me réconcilier avec lui. Ce sera ma dernière coquetterie. Oui, il faut que je fasse le bon Dieu. »
Voilà le dernier mot de ma pauvre Valérie. Je la retrouve, dit Lisbeth en pleurant.
La Lorraine crut devoir passer dans la chambre de Crevel, où elle trouva Victorin et sa femme assis à 3 pieds de distance du lit du pestiféré.
Lisbeth, dit-il, on me cache l'état dans lequel est ma femme. Tu viens de la voir. Comment va-t-elle ?
Elle est mieux, elle se dit sauvée, répondit Lisbeth en se permettant ce calembour afin de tranquilliser Crevel.
Ah bon, reprit le maire, car j'avais peur d'être la cause de sa maladie. On n'a pas été commis voyageur pour la parfumerie impunément. Je me fais des reproches. Si je la perdais, que deviendrais-je ? Ma parole d'honneur, mes enfants, j'adore cette femme-là.
Crevel essaya de se mettre en position, en se remettant sur son séant.
« Oh, papa, dit Célestine, si vous pouviez être bien portant, je recevrai ma belle-mère, j'en fais le vœu. »«
Pauvre petite Célestine, reprit Crevel, viens m'embrasser. »
Victorin retint sa femme qui s'élançait. « Vous ignorez, monsieur, dit avec douceur l'avocat, que votre maladie est contagieuse. »«
C'est vrai, répondit Crevel. » Les médecins s'applaudissent d'avoir retrouvé sur moi je ne sais quelle peste du Moyen-Âge qu'on croyait perdue, et qu'ils faisaient tambouriner dans leurs facultés. C'est fort drôle.
« Papa, dit Célestine, soyez courageux, et vous triompherez de cette maladie.
Soyez calmes, mes enfants. La mort regarde à 2 fois avant de frapper un maire de Paris, dit-il avec un sang-froid comique. Et puis, si mon arrondissement est assez malheureux pour se voir enlever l'homme qu'il a 2 fois honoré de ses suffrages, hein, voyez comme je m'exprime avec facilité. Eh bien, je saurai faire mes paquets. Je suis un ancien commis voyageur. J'ai l'habitude des départs. Ah, mes enfants, je suis un esprit fort.
Papa, promets-moi de laisser venir l'église à ton chevet.
Jamais, répondit Crevel. Que voulez-vous? J'ai sucé le lait de la Révolution. Je n'ai pas l'esprit du baron d'Holbach, mais j'ai sa force d'âme. Je suis plus que jamais régence, mousquetaire gris, abbé du bois et maréchal de Richelieu. Sacrebleu! Ma pauvre femme qui perd la tête vient de m'envoyer un homme à soutane. À moi, l'administrateur de Béranger, l'ami de Lisette, l'enfant de Voltaire et de Rousseau. Le médecin m'a dit pour me tâter, pour savoir si la maladie m'abattait. Vous avez vu monsieur l'abbé? Eh bien, j'ai imité le grand Montesquieu. Oui, j'ai regardé le médecin. Tenez, comme cela, fit-il en se mettant de 3/4 comme dans son portrait, étendant la main avec autorité. Et j'ai dit, cet esclave est venu, il a montré son ordre et n'a rien obtenu. Son ordre est un joli calembour, qui prouve qu'à l'agonie, monsieur le président de Montesquieu conservait toute la grâce de son génie. Car on lui avait envoyé un jésuite. J'aime ce passage. On ne peut pas dire de sa vie, mais de sa mort. Ah, le passage! Encore un calembour! Le passage Montesquieu!
Ulofis contemplait tristement son beau-père, en se demandant si la bêtise et la vanité ne possédaient pas une force égale à celle de la vraie grandeur d'âme. Les causes qui font mouvoir les ressorts de l'âme semblent être tout à fait étrangères au résultat. La force que déploie un grand criminel serait-elle donc la même que celle dont s'enorgueillit un champsenet allant au supplice? À la fin de la semaine, Madame Crevel était enterrée, après des souffrances inouïes. Et Crevel suivit sa femme à 2 jours de distance. Ainsi, les effets du contrat de mariage furent annulés, et Crevel hérita de Valérie. Le lendemain même de l'enterrement, l'avocat revit le vieux moine, et il le reçut sans mot dire. Le moine tendit silencieusement la main, et silencieusement aussi, maître Victorin Hulot lui remit 80 billets de banque de 1 000 francs, pris sur la somme que l'on trouva dans le secrétaire de Crevel. Madame Hulot jeune hérita de la terre de Presles et de 30 000 francs de rente. Madame Crevel avait légué 300 000 francs au baron Hulot. Le scrofuleux Stanislas devait avoir, à sa majorité, l'hôtel Crevel et 24 000 francs de rente.